Dis à ton voisin, Dieu peut tout.
Amen, Dieu peut tout.
Dieu peut tout. Dieu peut tout. Amen. Dieu peut tout, quelle que soit votre situation. Peut-être, allez, on va prier. Et il y a dans cette salle des gens qui sont confrontés à des situations impossibles. C'est impossible. Et passez cette situation dans votre cœur. Peut-être il y a quelqu'un qui est au chômage. Et ça vous paraît impossible. J'ai pas de diplôme, j'ai pas ce qu'il faut. Ça me paraît impossible pendant que ma femme elle continue de jouer. Merci, au prix que t'es payé. Faut qu'elle bosse, hein, si elle veut manger. Et ça vous paraît impossible. Et alors on se place devant Dieu. Il y a peut-être une situation de couple. Au milieu de nous, un couple en difficulté. Un mari qui vous paraît, une épouse qui est ici, le mari vous paraît, c'est impossible. Un mari qui est désespéré. Des parents qui voient leurs enfants s'éloigner de Dieu. Et puis vous dites, mais c'est impossible. Et on va passer toutes ces situations. Il y a quelqu'un dans votre entourage qui est malade. Et là, ça paraît impossible. Au milieu de nous, il y a quelqu'un qui est atteint d'une maladie grave. Ça paraît impossible. C'est impossible. Les médecins l'ont diagnostiqué. C'était impossible. Et on se remet entre les mains du Dieu du « Tout est possible ». Tout est possible. Et on veut ouvrir notre cœur. Alléluia. Merci Seigneur d'étendre ta main, de faire grâce. Nous te prions Seigneur de nous transporter dans le royaume du « Tout est possible ». Nous savons Seigneur que toi tu es venu pour briser le mur de la maladie, le mur de l'esclavage, le mur de l'impossible, le mur de la dépression. Tu es venu, Seigneur, pour construire la maison du miracle dans nos vies. Tu es venu, Seigneur, pour nous transformer, délivrer les captifs, sauver les perdus. Et je te prie, Seigneur, afin que résonne dans ce lieu la parole de la foi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Dites à votre voisin, Dieu peut tout. Dieu peut tout. Voilà, vous pouvez reprendre place. Une grande joie d'être avec vous. Merci à votre pasteur de nous permettre, Yvan Carluère, là, de nous permettre d'être avec vous pendant toute cette journée. On découvre vos bâtiments. C'est la première fois qu'on vient. On est impressionné. Hein. Il est beau, votre bâtiment. Et alors, vous, vous êtes beau. Et vous sentez bon. Et vous êtes souriant. Bon, on reviendra. Ah ouais, ça me rassure. Il y en a un seul qui... Bon, mais on reviendra. Oui, il y en a trois, là. Bon, je le refais comme si je n'avais pas entendu. On reviendra. Ah bon ? Bon, j'ai eu peur, là. Vous n'aimez pas les blancs ou quoi ? Allons. Voilà, avant d'ouvrir la parole de Dieu, et encore merci à votre pasteur de me donner cette opportunité de présenter notre ministère d'évangélisation. Dieu a mis dans notre cœur ce désir de... comment dire, d'annoncer la bonne nouvelle de l'évangile, particulièrement en France. Vous savez que la France, alors voilà le contexte spirituel de la France, c'est la dépression, le détresse, désespoir. 45% des mariages se terminent par un divorce, 2 millions de drogués, 5 millions d'alcooliques, 1 enfant sur 10 endure des violences sexuelles, 2 enfants meurent de maltraitance chaque jour. Je parle de la France, hein, pas de la Somalie, là. Hein. 2 enfants meurent de maltraitance chaque jour. Une femme est violée toutes les 2 heures. 10 000 à 14 000 suicides par an, qui représentent un suicide toutes les 50 minutes. Depuis 1998, la France est toujours le pays européen qui consomme le plus d'antidépresseurs. Alors, 2 solutions. Soit on regarde notre pays s'écrouler, soit on cherche une solution. Et où est la solution ? Sans jeu de mots, ni à gauche ni à droite, mais c'est en regardant vers le ciel. Voilà, notre pays a besoin d'être touché par la grâce de Dieu. Nos contemporains ont besoin d'entendre parler de l'amour de Dieu. Dieu est vivant, Dieu est puissant, Dieu est réel, Dieu est agissant, Dieu s'intéresse à chacun d'entre nous. Et donc avec mon épouse, nous avons décidé il y a quelques années de répondre à cet appel de Dieu en développant ce ministère, d'abord à mi-temps. Et puis là, depuis le 1er janvier 2012, nous avons basculé à plein temps dans ce travail d'évangélisation. Pourquoi vous en parlez ? Parce que nous avons besoin de vos prières. Là, c'était écrit dans mes notes, ils disent « Amen ». On a besoin de vos prières. Amen. Priez pour que des évangélistes se lèvent en France. Là, pour le coup, tu peux baisser le retour, là. Merci. Ah, il dormait à la sono, c'est Christophe, on le remercie. Hein. Pas parce qu'il dort, mais non, il est réveillé. Voilà. Priez pour que des évangélistes se lèvent en France. Mais ça ne suffit pas, après, quand des évangélistes se lèvent, de nous taper, vous savez, sur l'épaule, en disant, ouais, c'est bien, que Dieu te bénisse. On a besoin de vos prières. Vos prières nous ouvrent les portes. Et puis, on a besoin de votre soutien. Avec mon épouse, nous avons décidé de nous consacrer à plein temps, pleinement, à ce ministère d'évangélisation. Et on a besoin de soutien financier, matériel, parce qu'on ne veut pas aller dans les églises en exigeant, voilà, ça coûte tant. Mais nous préférons répandre cette charge sur toutes vos belles épaules. Elle n'est pas belle, la vie ? Et vous pouvez comme ça devenir partenaire avec nous et nous aider. Non seulement vous priez pour nous, mais vous nous permettez, vos prières nous ouvrent les portes et c'est vos dons qui nous permettent de les franchir. Alors si vous prenez notre ministère à cœur, vous pouvez devenir partenaire en versant 20 euros par mois, 30 euros par mois ou faisant un don ponctuel. En tout cas, nous sommes là grâce, j'en vois ici, nous sommes là grâce aux partenaires qui nous soutiennent, qui prient pour nous. Et notre pays a besoin d'être évangélisé, vous croyez pas ? Dites amen, voir. Ah, ben maintenant vous êtes liés. Hein. Du coup, notre pays a besoin d'évangélistes. Du coup, il faut soutenir les évangélistes. Amen. Voilà, alors venez me voir, si vous prenez bien sûr hein, à cœur notre ministère, venez me voir, je vous remettrai où vous allez voir mes filles qui se tiendront. Elles sont belles, hein ? Comme leur papa. T'as remarqué ? Je me suis rasé, elles aussi. Bon, alors, voilà. À la fin du culte, allez les voir. Voilà, vous trouverez aussi des CD. Enfin, et n'hésitez pas si vous voulez nous soutenir à demander ce bulletin d'information. Normalement, ma femme aussi s'y tiendra. On a aussi produit des albums. C'est ma femme qui chante. Elle chante bien. Hein, c'est ma femme. Si vous achetez deux CD, le troisième est offert. Je peux pas mieux faire. Hein, il m'encourage, le frère. Et si vous connaissez quelqu'un qui est dans la dépression, qui est découragé, qui est fatigué, offrez-lui Accroche-toi. Ça lui fera vraiment, ça lui fera du bien et puis l'évangile est annoncé. Vous trouverez aussi des messages de mes prédications, d'édification ou d'évangélisation. Et puis vous trouverez deux livres que j'ai écrits, Le mensonge, l'arme du diable et comment viendront-ils. C'est un peu le sujet de ce matin. Voilà, j'en ai fini avec ces annonces. Est-ce qu'on peut se relever une dernière fois, prier pour que Dieu bénisse sa parole ? En plus, ça vous fait du bien de vous lever. Non ? Ça vous fait du bien de vous lever ? Dis à ton voisin, ça te fait du bien d'être debout un peu ? Bon, on va prier. On va prier, que Dieu bénisse. Hein. Notre bon Père Céleste, c'est vraiment une joie pour nous d'être là avec toi. Nous réalisons, Seigneur, que ce qui donne de la valeur, un sens à ce culte, c'est que tu es là présent au milieu de nous par ton esprit. Et nous te le demandons, Seigneur, nous te demandons une parole qui bouscule, une parole qui nous bouleverse, une parole qui nous emmène plus loin. Seigneur, nous ne te réclamons pas une parole humaine qui vient de raisonnement humain, mais nous te réclamons une parole qui vient de ton cœur. Cette parole que tu as préparée pour ton peuple. Nous voulons goûter à ce repas que tu as préparé pour chacun d'entre nous. Au nom de Jésus, amen. Amen. Voilà, vous pouvez reprendre place. J'aimerais vous inviter à aller dans l'évangile de Luc, chapitre 15, et nous allons commencer notre lecture au verset 11. Luc, chapitre 15, verset 11. C'est Jésus qui nous raconte cette histoire, cette belle... Allez, en tant qu'évangéliste, je trouve que c'est la plus belle histoire de l'évangile, de toute la Bible. Mais bon, ça c'est mon avis. Hein. Je ne sais pas si votre pasteur est d'accord, mais hein. Bon, enfin, tout est beau dans la Bible. Hein. Bon, mais mais celle-là quand même, elle est. Hein. Qui est avec moi vote pour cette histoire. Non, c'est bon. Luc chapitre 15 verset 11. Il dit encore, un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qui l'envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il dit, « Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance ? Et moi, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. » Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à se réjouir. Amen. Voilà un beau texte de une belle histoire que Jésus nous raconte pour nous parler de l'amour de Dieu, de son amour du berger, pour nous résumer aussi le message de l'évangile. On y voit dans ce texte des choses, enfin c'est un texte extrêmement riche, on pourrait en parler des heures et des heures, et laissez-moi simplement vous dire qu'on voit dans ce texte ce que j'appelle le processus de la déchéance spirituelle. C'est-à-dire que nous voyons un garçon qui, somme toute, c'est bien normal, veut à un moment donné, parfois c'est l'âge, il y en a des parents qui ont des ados. Levez la main, les parents martyrs là. Bon, vous avez remarqué que quand on a nos enfants grandissent, à un moment donné, on sent à partir de l'adolescence et quand ils sont jeunes, on sent que il y a des ailes qui leur poussent, que les épaules s'élargissent, qu'ils veulent faire quelque chose. Mais au fond, tout ça, c'est très positif. Ils ont des projets et chacun d'entre nous avons des projets, oui ou non ? Dieu nous a créés comme ça. Dieu a fait de chacun de nous des bâtisseurs. Alors nous pouvons bâtir pour certains avec leurs mains, d'autres avec leur tête, d'autres avec leur voix. Bon bref, nous avons des talents, des capacités et nous voulons produire quelque chose avec notre vie. Je veux faire quelque chose pour quelque part en être fier. Il n'y a rien de mal à ça. Je veux construire, aussi construire un couple, construire une famille, avoir des enfants. Peut-être ça peut être une maison, ça peut être pour un chanteur une chanson, pour un poète un poème, pour un maçon ce sera une maison, enfin etc. Mais je veux construire quelque chose, je veux faire quelque chose de ma vie, et j'imagine que ce garçon il sa tête est pleine de projets, de d'ambition. Mais là où il commet une erreur, c'est d'exclure Dieu de sa vie. C'est de sortir de la maison de Dieu, de finalement fonder sa vie, mais sur un mauvais fondement. La Bible nous montre que le fondement de notre vie, le fondement le plus sûr pour une vie, c'est Christ lui-même. C'est de fonder notre vie dans le domaine de la foi. C'est que bien sûr, Dieu ne nous empêchera pas d'accomplir nos projets. Au contraire, Dieu nous accompagnera. Parfois, on a confondu la religion et l'évangile. Et on s'est dit, mais la religion, si je deviens un croyant, alors j'aurai plus le droit de rien faire. Mais c'est pas vrai. Le message de l'évangile, c'est le message de la liberté, de la délivrance. Justement, Dieu nous dit, tu peux tout, tout est possible à celui qui croit. C'est le contraire. Et Dieu, au contraire, et vous remarquerez, parlez ici à des enfants de Dieu, eh bien, vous verrez que les enfants de Dieu, ils ont encore plus de projets que les autres. Et parfois, les enfants de Dieu ont des rêves. Et celui qui vit dans le pays où ne règne pas Dieu, lui, il est rempli de cauchemars. Mais le pays de Dieu est rempli de rêves. Et voilà que ce garçon, il part dans le mauvais pays, dans la mauvaise direction. Et regardez le processus. D'abord, il dissipe son bien. Il le dépense. J'ai remarqué que dans le pays sans Dieu, c'est le pays de l'égoïsme. C'est le pays du matérialisme. Plus on a d'argent, plus on a d'amis. Quelqu'un qui gagne au loto, il a même des cousins qui sortent de la fenêtre de chez lui. Ouais, je suis ton cousin, t'as oublié. Mais allez parler à un gars qui vit dans la rue, comme par hasard, lui, il n'a pas de famille. C'est le pays de l'égoïsme. C'est le pays où finalement chacun doit se débrouiller tout seul. C'est le pays où si tu veux t'en sortir, tu dois marcher sur l'autre. C'est le pays où Dieu ne règne pas. Donc il dissipe son bien, il n'y a plus rien. Il arrive les poches pleines et à un moment donné, ses poches se vident. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays. C'est le pays de la famine. Le monde, bien sûr, comment vous dire ça ? Notre estomac a besoin de nourriture. Et vous avez remarqué que notre estomac, c'est l'heure, hein, les gars. Vous avez remarqué ? Mais moi, j'ai pas fini de prêcher. Hein. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Moi, votre pasteur, il m'a dit, jusqu'au coucher du soleil, tu peux y aller. Pourquoi vous aviez envie de manger à midi? Bon, notre estomac a besoin de nourriture. Notre âme a besoin de nourriture, d'affection, d'amour, de relation. Mais aussi, notre âme a besoin d'une relation avec Dieu. Et tant que je n'établis pas une relation avec Dieu, je serai un être humain, inachevé. Je serai un être humain inachevé. C'est ce qui explique pourquoi il y a tant de personnes qui tombent dans la drogue, dans l'alcoolisme, parce qu'ils cherchent quelque chose, ou dans l'occultisme, parce qu'ils cherchent quelque chose. Mais ce quelque chose, ça vient du cœur de Dieu. Dieu seul peut nous combler. Et ce garçon, tant qu'il marche dans le pays où il n'y a pas Dieu, il est dans le pays de la famine. Et immanquablement, il va se retrouver dans le besoin. Toutes celles et ceux qui n'ont pas Dieu dans leur cœur se retrouvent à un moment donné dans le besoin. Et ils se retrouvent aussi au service du maître des cochons. Vous savez qui est le maître des cochons ? C'est le diable. C'est le diable. Et ce garçon, imaginez bien que Jésus parle à des juifs. Et rien que quand à des juifs on dit le mot cochon, c'est comme si vous disiez un gros mot. On dit pas ça. On n'en parle même pas, on n'y pense même pas. Alors imaginez vivre avec des cochons, manger la nourriture des cochons, c'est pour un juif le pire du pire. Mais Jésus veut montrer par là qu'il n'y a pas pire vie que de vivre sans Dieu. Il n'y a pas pire vie que d'exclure Dieu de sa vie, de son couple, de sa famille, de son travail, de dire voilà, je ne veux pas de Dieu. Mais si tant que tu ne marcheras pas avec Dieu, c'est le diable qui te fera marcher. Je le répète, tant que tu ne marcheras pas avec Dieu, c'est le diable, que tu le veuilles ou pas, qui te fera marcher. Et ce garçon, il se retrouve immanquablement au service du maître des cochons. Mais béni soit Dieu. À un moment donné, il va ouvrir les yeux et il va dire, je meurs de faim. Ça, c'est l'aboutissement d'ailleurs. Tous ceux qui n'ont pas Dieu dans leur cœur, à un moment donné, ils meurent. Ils sont morts parce que le diable, c'est le dieu de la mort, du désespoir, de la maladie, de la dépression, de l'impossible, du suicide. Et donc, il dit, mais je meurs de faim. Et là, il ouvre les yeux, il réalise et il se souvient de la maison de son père. Il se souvient de Dieu. Il se souvient, peut-être que, je parle pour quelqu'un, il se souvient que tout à coup, il a une Bible chez lui. Il se souvient qu'il y a une église, il se souvient qu'il y a un Dieu, il se souvient qu'il peut prier, il se souvient qu'il peut s'approcher de Dieu. Et la première étape pour s'approcher de Dieu, c'est la repentance. J'ai péché contre le ciel et contre toi. Il cherche pas d'excuses. Il dit pas c'est la faute de mon père, de ma mère, de mon frère. Et pourtant, quand vous lisez la suite de l'histoire, le frangin, il est pas commode. Mais il dit pas, non, il dit pas c'est la faute de mon frère qui est un malébable. C'est pas ça. Mais il dit j'ai péché. Ça veut dire quoi, j'ai péché? La repentance. Ça veut dire à un moment donné, j'ai fait un mauvais choix. J'ai pris une mauvaise direction. J'aurais dû tourner à gauche. Et puis, j'ai tourné à droite. J'aurais dû lire la Bible. J'aurais dû obéir à Dieu. J'aurais dû faire confiance à Dieu. Voyez-vous ? Et donc là, quand une âme se repent, Dieu ouvre toujours la porte de la grâce. Toujours, quel que soit notre passé. Et imaginez ce garçon, il transporte avec lui l'odeur du cochon, l'odeur du péché, l'odeur de la débauche, l'odeur de l'échec, de toutes ces odeurs nauséabondes qui sont là, mais il vient dans la maison du Père. Et ce qui m'intéresse, c'est toute cette réhabilitation. Et qu'est-ce qui va faire que ce garçon va revenir dans la maison du Père? Et regardez tout le processus. Le Père va lui donner la plus belle robe. C'est ce qu'on appelle la justification. Ça va? C'est alors si vous demandez à votre pasteur, après il vous fera une étude sur la justification. Je ne vais pas le faire maintenant parce que le soleil va se relever le matin. Ok? Une alliance au doigt. L'alliance, ça nous parle de cette alliance que Dieu veut passer entre vous et lui-même. C'est-à-dire que je m'engage vis-à-vis de Dieu. Ça va? Je lui fais confiance. Alors Dieu va relever ce défi et va prendre soin de ma vie. Voilà, il y a une alliance. Des souliers aux pieds, ça veut dire que je retrouve mon identité d'enfant de Dieu. Enfant de Dieu. Je peux le prier, j'ai accès à ses bénédictions, j'ai accès à ses promesses, j'ai accès illimité. Illimité, ADSL, j'ai SMS gratuit avec lui. MMS même, illimité. Avec Dieu, toujours en haut débit. Je peux le prier, je peux l'interpeller. Et Dieu veut me parler. Et puis, le Père va lui dire, amenez le veau gras et tuez-le. Ça nous parle de la croix de Jésus qui est mort à la croix du calvaire afin de nous accorder le pardon de nos péchés. Mangeons. Ça, c'est la foi. Osez croire ce matin. Amen. Dis à ton voisin, ose croire que ce qu'il dit, c'est vrai. Bon, mais racontez pas votre vie, hein, juste ça. Hein. Ose croire. Ose croire que ta vie peut changer. Ose croire que Dieu veut te délivrer. Ose croire que Dieu veut te relever. Voyez-vous, c'est ça, manger. Je m'approprie de la parole de Dieu. Et puis les conséquences, c'est réjouissons-nous. Mais ce qui m'intéresse particulièrement dans ce texte, c'est l'atmosphère de cette maison. Qu'est-ce qui est fait que cette maison, elle va comme attirer le fils perdu? Et ça, c'est ce qui intéresse l'Église. Comment faire de l'Église qui, l'Église, c'est la maison du Père. Okay ? L'Église, c'est la maison de Dieu. Comment faire pour que l'Église soit ce lieu de réjouissance, d'accueil, où il y ait ce repas, ce lieu où les fils et les filles perdus qui ont besoin de la grâce de Dieu puissent dire ben, « je veux venir ici et je veux y trouver la grâce de Dieu. Je serai comme attiré. » Vous comprenez ? Et voilà quelle est ma réflexion. Et j'ai trouvé plusieurs qualités. La première qualité, c'est de développer dans la maison du Père l'état d'esprit du Père de la maison. Dieu cherche au milieu de nous des pères et des mères. Je ne parle pas d'étiquette, hein. Je ne parle pas de responsabilité. Je parle simplement de cet état d'esprit. Quand je me suis donné à Dieu, c'était, j'avais 22 ans. Donc vous comptez, ça fait 2 ans, quoi. Bon, ok, c'était en 1985, vous voyez. Alors, je me suis donné à Dieu, et je me souviens, dans l'église où j'étais, je voulais tout de suite, je pense que Dieu, très vite, m'a communiqué l'état d'esprit du père de la maison. Et très vite, j'avais dit à Dieu, écoute, qu'est-ce que je peux faire, quoi, avec mes mains, avec ma tête, avec mes mains, je suis pas un grand manuel, mais au moins avec ma tête, qu'est-ce que je peux faire? Et le pasteur, il m'a confié la tâche la plus importante de l'église. Vous voulez savoir quelle est la tâche la plus importante dans l'église aujourd'hui, au XXIe siècle? C'est ranger les chaises. Quoi? Il m'aime, le frère. Il a rangé les chaises aussi, il les range aussi. C'est très important. Et je me souviens, les premières fois que je rangeais les chaises, je vous avoue honnêtement que j'aurais quand même... Et puis un jour, un pasteur m'a dit... écoute, quand tu ranges les chaises, prie pour celui qui va s'asseoir sur la chaise. Ah, ça change tout. Là, ça change tout. Parce que moi, du coup, je priais pour les chaises. Enfin, pas pour les chaises, hein. Après, votre pasteur, il va me... Bon, pour celui qui va s'asseoir sur la chaise. Hein. Je priais pour... J'ai dit, Seigneur, tu vas le bénir. Bon, ça va, nous, c'était pas une grande église comme vous. Hein. Ça, il y avait, je sais pas, 40 chaises, vous voyez. Enfin, c'est déjà... Et puis, ça a été ma première église, les chaises. Ah, les chaises, ça, c'est l'église super. Je déplace les chaises, elles disent rien. Elles se disputent pas. Et parfois, par sadisme, je dis, toi, t'es au premier rang, je vais te mettre là-bas. Et puis toi, là-bas, je vais t'honorer, je vais te mettre là. Elle disait rien. C'était contente, les chaises. Et les chaises me connaissaient tellement bien au bout d'un moment que quand j'arrivais à la réunion, avant l'heure de la réunion, mais vous, j'ai remarqué, vous arrivez tous à l'heure, donc vous êtes formidables, dès que les chaises me voyaient se ranger. Normalement, c'est rigolo ce que je viens de dire. Il n'y a pas le même mouvement. Ça marche, d'habitude, ça marche. Même ma femme, elle rigole d'habitude. Bon, c'est pas grave. Vous voyez, ça a été ma première responsabilité. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que j'ai pris conscience que c'était pas une petite responsabilité. Vous voyez ce que je veux dire? Et quand il y avait la réunion d'évangélisation, une réunion ou le culte, vous voyez, et puis que le prédicateur prêchait, puis qu'il y avait des mains qui se levaient, qui répondaient à l'appel, qui demandaient la prière, ou des hommes, des femmes qui confessaient le nom de Jésus, qui disaient, oui, voilà, je donne ma vie à Dieu, ou je... Et ben moi, je disais dans mon cœur, mais c'est grâce à mes chaises! C'est normal qu'il est béni, il est assis sur ma chaise! Je sais faire aussi, hein. C'est le cri de la chaise. Voyez, Dieu cherche des pères et des mères. Dieu cherche des hommes et des femmes dans l'église qui se lèveront. Regardez, Juges, chapitre 5, verset 7. Voici ce que Déborah va dire. Les chefs sont sans force. Je vais plus vite. Voilà. Les chefs étaient sans force en Israël, sans force. Quand je me suis levé, moi, Déborah, quand je me suis levé comme une mère en Israël. J'aime beaucoup ce texte. Parce qu'on y voit là tout l'équilibre de la parole de Dieu. On y voit une femme qui se lève, mais pas n'importe comment. D'ailleurs, ça pourrait être un homme que c'est pareil, hein. La première réflexion que je me suis faite, les premières fois que j'ai lu ce texte, je me dis, mais pour qui elle se prend? C'est une femme, on ne lui demande rien. D'habitude, quand je dis ça, je me fais huer. Mais attendez, vous dormez, vous, ou quoi, là? Ou l'estomac est vide, vous endort, ou quoi, là? Bon, je le refais, hein, qu'est-ce qu'on leur demande aux femmes? Rien. Eh, mais les Parisiennes... Eh, mais réveillez-vous, les Parisiennes, là. C'est vrai, quoi, les femmes, on leur demande rien, quoi. Ah, ça va. Bon, mais remettez-vous à l'époque. À cette époque-là, elles n'avaient pas le permis de conduire. Elles n'avaient pas le droit de vote. Ok, vous voyez le contexte. Mais j'ai remarqué que dans l'Église, quand quelqu'un condamne ou critique, il ne se lève jamais. Vous avez remarqué ça? Mais elle se lève. Est-ce qu'il y en a qui regardent des matchs de sport à la télévision? Ah, il sera béni. Hein. Levez la main, il n'y a pas de honte. Maintenant, je vous ai vu, votre pasteur, il a vu. Il a les noms. Moi, j'aime bien. Il y a deux sports que je regarde, c'est le foot et le tennis. J'aime beaucoup ça. Et quand je regarde des matchs de foot, moi, je suis en forme jusqu'à la fin de la deuxième mi-temps. Je suis très en forme. Et parfois, je hurle après les joueurs. Vous savez, quand on voit surtout un football, je prie fort, hein, surtout pour l'équipe de France en ce moment. Hein? Ok. Le PSG, on s'en fiche. Hein, c'est... Non, ça va. Ah, il y en a un qui suit le PSG, ça va. Ça va. Ah, j'ai trouvé le mot-clé. PSG, le mot-clé. Bon, ah, j'ai trouvé le mot-clé à Créteil. PSG. Bon, ok. Et vous avez remarqué, quand vous regardez un match de foot, parfois, moi, j'hurle, hein. Et je me fâche, je dis, mais quand même, au prix que t'es payé, tu vas le mettre le ballon dans la fichue cage de but. Vous voyez, et parfois j'entends le commentateur, deuxième mi-temps, ils sont épuisés, mais ils sont épuisés de quoi? Au prix qu'on les paye, ils font que ça toute la journée. Quand même pas compliqué de mettre le ballon là. Alors tu vas le mettre. Vous voyez, ça me détend. Et un jour, il y a 2 ans, dans l'équipe de on a une équipe de foot dans l'église à Limoges, bah Steven est témoin. Ils m'ont dit, ouais, Bruno, ce serait bien que tu viennes jouer avec nous. J'ai dit, mais bien sûr. Je vais vous mettre la pâtée. La pâtée. Et j'arrive avec les chaussures et tout sur le terrain. 10 minutes, j'ai tenu 10 minutes. 10 minutes. Au bout de 10 minutes, j'ai tendon sectionné. Tendon d'Achille sectionné. Et là, je me suis aperçu, j'ai dit, tiens, c'est bizarre. Moi, j'avais du mal. D'ailleurs, au bout de 10 minutes, je vous avoue que ça m'a arrangé que le tendon se casse. Hein, parce qu'au moins, j'avais une excuse valable. Mais j'en pouvais plus. Je n'en pouvais plus. Moi, en fait, au bout de 5 minutes, je réfléchissais à comment je vais leur dire que je ne peux plus jouer. Là, vous voyez, je n'en pouvais plus. J'en pouvais. Parce que je me suis aperçu que le terrain de foot est plus grand qu'à la télé. Que la cage de but est toute petite. Et que les gars en face, ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas. J'avais pas compris, mais ils ne veulent pas. Moi, et la seule fois où j'ai touché le ballon, voilà, je me suis retrouvé à l'hôpital le lendemain. Eh bien, dans l'église, c'est la même chose. Il y a ceux qui sont sur les gradins. Vous voyez ce que je veux dire? Qui regardent. Alors, on regarde, c'est trop fort, c'est trop ci, c'est trop ça. Il n'y a pas assez de ci, il n'y a pas assez de ça. Mais Dieu cherche des pères et des mères. Et j'ai remarqué qu'on n'a pas la même vision quand on est sur le terrain. Dieu cherche des pères et des mères qui se battent dans l'intercession, qui se battent dans la prière, qui se battent dans le témoignage. La deuxième qualité, c'est le partage. Dieu cherche des hommes et des femmes qui donnent ou qui sachent se donner. Ce père n'a jamais retrouvé l'argent, mais il a retrouvé son fils. Et il faut savoir ce qu'on veut. Qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut que des âmes soient sauvées? Voilà, c'est une réflexion. La troisième qualité, c'est la persévérance. Dieu cherche des hommes et des femmes persévérants. Pourquoi je parle de persévérance? Parce que cet homme a vu son fils de loin. Donc ça veut dire qu'il regardait dans cette direction-là. Il espérait. Il a continué à espérer. Même si le frère, l'autre fils, hein, même si sa femme, on n'en entend pas parler là dans cette histoire, lui disait « Mais non, c'est fini, il ne reviendra plus. » Le père persévérait. Et j'aimerais parler là ici aux parents. N'abandonnez jamais vos enfants. Jamais. Même si vos enfants, vos petits-enfants sont loin de Dieu, ne cessez jamais de prier pour eux. À chaque fois que vous priez pour eux, c'est comme si vous disiez frontalement au diable, celui-là tu ne l'auras pas. Vous voyez ce que je veux dire? Et cet homme, il a persévéré, et la preuve, son fils est revenu. Et puis la quatrième qualité, c'est la passion. Et Dieu cherche des hommes et des femmes passionnés. Pourquoi je vous parle de passion? Parce que ce père, il va courir vers son fils. Or là, on est dans un contexte proche-oriental, il y a 2000 ans. Ça ne se fait jamais. C'est toujours au plus jeune de courir, mais jamais le plus âgé va courir vers le plus jeune. Jamais, d'autant plus d'après le contexte. Hein, le fils, il revient en haillons, il sent le cochon, tout ça. C'est à lui de courir, c'est à lui de s'abaisser. Mais vous savez quoi? Le père, il s'en fiche. Le père, la seule chose qui compte, c'est que son cœur se remet à battre quand il voit son fils. Eh bien, Dieu cherche des hommes et des femmes dont le cœur bat pour les perdus. Dieu cherche des pères et des mères. Dieu cherche des hommes et des femmes qui sachent donner, qui sachent se donner. Dieu cherche des hommes et des femmes à qui il va relever les bras. Ça nous arrive tous d'avoir les bras fatigués, d'être fatigués. Ça vous arrive jamais ? Tous, ça nous arrive. Tous. Mais il ne s'agit pas de rester là, il s'agit de s'approcher de Dieu, dire « Seigneur, je n'en peux plus. Alors j'ai besoin de ta grâce. Parce que je ne veux pas continuer comme ça. » Et puis Dieu cherche des hommes et des femmes passionnés. Est-ce qu'on peut prier quelques instants ? Notre bon Père Céleste, nous te rendons grâce pour ta vie, pour ta parole, pour ton esprit qui souffle, qui agit en nous. Te bénissons, Seigneur, parce que tu n'en as pas fini avec nous. Et je te prie, Seigneur, afin que par ton esprit, maintenant, tu lèves au milieu de nous des pères et des mères. Je te prie, Seigneur, afin que tu relèves des bras fatigués, afin que tu encourages des parents qui sont peut-être désemparés. Je te prie, Seigneur, afin que tu développes la générosité, la libéralité au milieu de nous. Je te prie, Seigneur, afin que tu allumes le feu de ce zèle, afin que tu fasses de nous des hommes et des femmes de feu, afin que tu nous renouvelles dans ton esprit. Seigneur, tu agis maintenant au milieu de nous. On va rester dans la prière et j'aimerais vous inviter. Si quelqu'un veut répondre à cet appel, Dieu cherche des pères et des mères. Alors celui qui veut répondre à l'appel de Dieu se lève à sa place. Dieu cherche des pères et des mères au milieu de nous. Et tu te lèves à ta place pour dire « Moi, je veux être un père dans cette église. Je veux être une mère. Je veux m'engager dans la prière, dans l'intercession, dans le témoignage. Je veux aller plus loin. Je veux m'engager. Je veux pas être une pierre d'achoppement, mais je veux être une pierre d'édification. Et j'ai besoin que tu me renouvelles. Je veux pas perdre ma vie. Je ne veux pas perdre mon temps. Mais je veux être utile entre tes mains. » Alors tu te lèves à ta place. N'attends pas, mais lève-toi maintenant à ta place. Lève-toi simplement. Dire « Je veux être un père dans cette église. » Il y a des jeunes et des très jeunes au milieu de nous, mais n'attendez pas d'avoir des cheveux blancs. Mais si tu peux avoir 10 ans, 12 ans, 15 ans, et Dieu t'appelle à être une mère, Dieu t'appelle déjà à être un père dans l'église, alors tu peux te lever à ta place et dire, mais moi, du haut de mes 12 ans, je veux déjà être une mère. Du haut de mes 15 ans, je veux déjà être un père. Seigneur, communique-moi ton état d'esprit du père d'être au milieu de nous. Certains sont fatigués, t'es lassé. T'es découragé, parfois on est fatigué, on ne sait même pas pourquoi. Mais c'est le temps de se lever et dire « Seigneur, renouvelle-moi, relève mes bras qui sont fatigués. Seigneur, renouvelle-moi par ton esprit. Seigneur, ouvre mes yeux. » Peut-être tu as perdu la passion pour les choses d'en haut. C'est quand la dernière fois que tu as prié, je ne parle pas de prière religieuse, mais une prière où tu as comme été transporté, comme tu as été pris dans tes entrailles, où tu as pleuré pour le gamin qui vit à côté de chez toi, tu as pleuré pour ce gars qui est en train de se droguer, où tu as été saisi de compassion pour la mémé qui est à l'hôpital. C'est quand la dernière fois que tu as prié avec larmes, tu as prié en étant saisi, tu as comme expérimenté ce fardeau qui vient de Dieu, prier avec compassion, et peut-être tu as perdu cette passion, c'est le temps de te lever. Tu as été gagné par tant de choses, mais tu as perdu la passion pour les choses d'en haut. Et c'est le temps de se lever, c'est le temps de se lever. Et peut-être qu'au milieu de nous, quelqu'un a du mal au niveau de l'argent, de donner, de se donner. Eh bien, lève-toi à ta place pour dire, Seigneur, développe en moi cet esprit de libéralité. Je ne veux pas être égoïste, je ne veux pas être un matérialiste. Mais Seigneur, je veux développer cette libéralité. Apprends-moi à donner. Et tu te lèves à ta place. Et vous qui êtes debout là, commencez à prier. Commencez à réclamer à Dieu. Exprimez à Dieu votre besoin. Dites à Dieu quel est votre besoin. Peut-être tu n'as encore jamais osé prier à voix haute. C'est le temps de le faire. C'est le temps d'ouvrir ta bouche. C'est le temps de confesser le nom de Jésus. C'est le temps de dire Dieu est bon, Dieu est grand, pour faire taire le diable. Peut-être tu te dis, mais moi le diable, eh bien ouvre ta bouche et loue le Seigneur et tu entendras moins le diable. C'est le temps de te lever pour que le diable s'assoie. C'est le temps d'aller de l'avant pour qu'il recule. C'est le temps de Dieu. C'est le temps de Dieu. C'est le temps de s'engager pour Dieu. C'est le temps de choisir pour Dieu. Et puis peut-être qu'au milieu de nous, quelqu'un a besoin de revenir dans la maison du Père. Tu t'es égaré. Tu as faim. Tu meurs de faim. C'est le temps de revenir vers Dieu. Et puis de dire à Dieu, j'ai péché, j'ai échoué, j'ai raté, j'ai pris la mauvaise décision. Mais je ne veux pas tourner en rond. Seigneur, j'ai besoin de toi. Alléluia.
Amen. Seigneur, me voici.
Seigneur, souffle par ton esprit au milieu de nous. Souffle, Seigneur, par ton esprit. Tu renouvelles ceux qui sont fatigués. Au nom de Jésus.
Seigneur,